Merci beaucoup pour cet accueil et très chaleureux dans cette ville de Caen. Moi, je suis normande, hein, donc je me sens tout à fait à l'aise, tout à fait chez moi, même si j'enseigne à Lyon. C'est vraiment un plaisir de pouvoir sortir la tête des tâches administratives et autres et de la fin du semestre. Je sais qu'on est tous fatigués, donc vraiment merci d'être là. Sortir la tête et prendre un bol d'air et venir parler vraiment de la recherche que j'effectue depuis un certain temps. Donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter une notion historiographique et historique qui monte en puissance aux États-Unis, mais pas seulement, vous allez le voir actuellement, qui, si vous êtes angliciste, doit vous intéresser. Et cette notion, c'est « settler colonialism ». Je vous enverrai, si vous le souhaitez, la bibliographie qui va avec cette présentation hein, par mail et les slides aussi si vous voulez. Hein, si vous préférez écouter que de prendre des notes, il n'y a pas de problème, moi je donne tout. Bien entendu, je compte sur vous pour ne pas diffuser le diaporama hein, parce que quand même, c'est du travail. Donc voilà, donc vraiment c'est un plaisir d'être là. Je vais essayer d'aller lentement parce que mes diapositives sont assez denses. Mais on aura un temps de questions à la fin, donc n'hésitez pas à les écrire au fil de ma présentation. Je voudrais commencer par vous expliquer comment moi, personnellement, j'ai rencontré cette notion et pourquoi je m'y suis intéressée. Comme Madame Garbay le disait en introduction, je travaille sur cette idée d'implantation anglaise en territoire amérindien depuis ma thèse. Donc ça fait quand même un bail. Hein, on s'est connus avec Madame Baillet il y a déjà 25 ans où j'étais jeune doctorante et je travaillais déjà sur l'œuvre de Monsieur Winthrop. Alors s'il avait écrit 5 pages, ça poserait problème, mais l'archive de Winthrop et de sa famille est en réalité colossale. Hein, c'est une quinzaine de volumes et il y a toujours à faire, c'est un personnage important de l'histoire et de l'historiographie américaine. Je reviendrai de temps en temps au livre pour faire des connexions si vous le souhaitez, mais disons que j'ai commencé il y a très longtemps. Comme tous les jeunes étudiants anglicistes des années 90, j'avais été formée à l'histoire américaine coloniale par l'angle du puritanisme. Donc, je connaissais la Nouvelle-Angleterre par ce biais, les Pères Pèlerins, etc. Je connaissais donc John Winthrop pour son Model of Christian Charity, qu'un très grand nombre de cursus anglicistes de licence étudient en réalité. C'est vraiment un classique, si vous voulez, des débuts de l'implantation de la colonisation anglaise en Nouvelle-Angleterre. Et puis, au début de ma thèse, j'ai décidé de me confronter au texte original. Je l'avais vu dans des anthologies, je connaissais, j'avais lu déjà des morceaux, des écrits de John Winthrop, mais je n'avais pas encore lu le journal de John Winthrop qu'il a commencé à écrire à bord du bateau qui partait de Plymouth en Angleterre pour emmener le premier contingent de la compagnie du Massachusetts dans la baie du Massachusetts en 1630. Et il a écrit ce journal jusqu'à sa mort. C'est 600 pages dans la version Harvard, dernière édition de 1996, qui est absolument remarquable. C'est une œuvre absolument colossale dans laquelle il raconte ce que c'est que l'implantation, sous le prisme bien évidemment de son rôle à lui, qui est de gouverner cette colonie et d'en faire la promotion, parce que la colonisation, c'est toujours un événement public. Il y a beaucoup d'écrits et d'événements qui servent à soutenir cette entreprise. En fréquentant le journal de John Winthrop de manière régulière, j'ai pu démontrer avec le temps que le puritanisme n'était pas l'aspect le plus important du journal, ni même de la pensée de John Winthrop. En fait, ce qui le préoccupe lui principalement, c'est l'appropriation territoriale et la stabilisation des habitations anglaises dans la région, parce que c'est pour cette fonction qu'il a été élu. Il est gouverneur d'une compagnie coloniale, d'une corporation, qui s'est fixée comme mission, comme les corporations actuelles, hein, pour toutes des missions. Mais la mission que lui devait accomplir était celle de stabiliser une implantation anglaise sur les côtes nord-américaines. Il y avait Jamestown déjà, la Virginie existait, mais la Virginie accumulait une promotion, c'est-à-dire de la publicité, extrêmement négative, parce que la mortalité était très élevée, la violence immense, la loi martiale quasiment constamment appliquée. Le modèle que Winthrop, lui, a fondé était complètement différent, puisque c'est un système corporatiste dans lequel les intérêts individuels et les intérêts collectifs se sont immédiatement imbriqués. Une colonie comme la Virginie, le gouvernement colonial était à Londres. Il s'agissait des investisseurs qui prenaient des décisions et qui envoyaient des missives qui arrivaient 12 semaines plus tard, quand elles arrivaient, parce que parfois ça n'arrivait pas, et qui contenaient des ordres qui devaient être mis en place par le gouvernement colonial qui était engagé. La compagnie du Massachusetts, en fait, emmène sa charte fondatrice en Nouvelle-Angleterre et décide de faire de la propriété territoriale la condition fondamentale de l'existence politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont recruté des familles en leur proposant de posséder une terre en Amérique. D'accord ? Donc ce n'est pas un head right au modèle virginien où il faut travailler pendant un certain nombre d'années pour avoir droit à l'accès à la terre. La participation à la corporation, l'investissement de base, entraîne la propriété territoriale en Amérique à perpétuité et sans dû à la couronne. Donc il y a quelque chose de très nouveau là, et Winthrop m'a frappé pour son sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il écrit régulièrement qu'il n'existe pas de société de cette forme ailleurs, dans les domaines anglais. Alors évidemment, il connaît bien l'Irlande, il a eu toute une partie de sa famille qui est partie coloniser en Irlande, il sait très bien ce qui s'y passe. Il y a des liens très ténus entre la colonisation de peuplement irlandaise de la fin de la période élisabéthaine et puis sous l'histoire, la colonisation en Nouvelle-Angleterre. En 2015, alors j'essayais, le puritain, alors je partais toujours de la religion parce que c'était ce qu'on faisait, parce que la Nouvelle-Angleterre c'était puritain, et j'essayais de trouver un langage qui pouvait exprimer cette innovation politique, ce sens de l'histoire, la force aussi de la rhétorique de Winthrop. Hein, son biographe qui s'appelle Richard Dunn, qui est disparu récemment, malheureusement, l'appelait « the man you love to hate ». Parce qu'il incarne tout ce que le puritanisme a, on l'a représenté comme ça. Hein. Si vous imaginez un juge dans Les Sorcières de Salem, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Le grand puritain en noir avec sa collerette, qui n'aime ni le sexe, ni la fête, ni Noël. Hein, le vrai Scrooge, quoi. Bon, en réalité, bon, il n'est pas du tout comme ça, mais ma formation me demandait de penser la colonisation en Nouvelle-Angleterre sur le mode religieux. Je savais bien que ce n'était pas ça, mais je me suis un peu débattue pour trouver des termes. Et puis en 2015, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion, settler colonialism, et j'ai eu un moment eureka. Ah, ben c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, ben c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire tous les mécanismes, moi, que j'avais identifiés, que j'essayais de décrire, en fait, ce champ-là, et je vais vous l'expliquer dans un instant, qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande, pensait cette forme d'occupation coloniale déjà, mais sur le 19e siècle. Donc j'ai eu ce moment où je me suis dit « Ah, mais voilà, c'est ça ». Donc j'ai fini mon livre comme une histoire, justement, du « settlement », une histoire de l'implantation, pour montrer aussi que l'implantation est publique, parce que la précarité est extrême, et que si les colons écrivent, c'est pour lever de l'argent et solliciter la sympathie des membres de leur famille ou bien des investisseurs en Angleterre, parce qu'ils en dépendent. Ils ne fabriquent pas leurs vêtements dans les premières décennies, ils ne fabriquent pas leurs chaussures ni leurs outils. Ils dépendent énormément, en fait, de la métropole. Mais ils conservent avec cette métropole des liens plutôt ténus. D'accord ? Depuis bientôt 10 ans, les ouvrages qui contiennent cette notion dans leur titre ou dans leur problématique se multiplient absolument partout, pas seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde anglophone en réalité. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est si vous voulez une sorte de résumé d'un article qui va sortir au mois de mars, que j'ai écrit avec mon collègue Trevor Bernard, sur justement un article dans un ouvrage qui va sortir chez Manchester University Press au mois de mars, qui s'appelle Agents of European Empires. Et là-dedans, on argue que cette colonialisme doit être approprié, on doit s'en saisir. Si on est angliciste, américaniste, 17e-iste, 18e-iste, 19e-iste, il faut s'emparer de cette notion, il faut se l'approprier, il faut la réfléchir, parce qu'elle explique à la fois plein de choses, mais vous verrez, on terminera sur ses limites, il y a des problèmes quand même. Ok ? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai donc 5 slides assez denses, je vais aller assez lentement, je vous promets. On va commencer par la genèse du concept, pour que vous compreniez un petit peu d'où il est né et pourquoi son contenu s'organise d'une certaine manière. Ensuite, je vais essayer de vous en donner une définition, et puis on va parler des enjeux historiographiques qu'elle soulève par rapport à des champs existants, par exemple. Je vais l'illustrer à travers le cas de la Révolution américaine, parce que je me dis que vous avez quand même tous des connaissances assez fondamentales sur la Révolution américaine, vous avez... « a narrative », comme disent les Américains, hein, de la Révolution américaine. Donc on va le refaire, mais sous l'angle « settler colonialism » pour que vous puissiez comprendre les enjeux vraiment précis de la notion. Après, enjeu méthodologique, c'est une formule un peu scientifique pour dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous, anglicistes français, comment on s'en sert, qu'est-ce que ça veut dire dans nos cursus et dans nos pratiques, en fait, de recherche et d'enseignement. Et puis, on va terminer sur les limites du concept, comme je venais de vous le dire. Donc, mon but, c'est que vous connaissiez la notion, que vous compreniez un petit peu son impact, et puis ensuite qu'on discute sur la faisabilité de l'intégrer à nos recherches sur le monde anglophone, parce que vous allez voir, ça n'est pas que américain. Les silences de l'histoire américaine, en fait, c'est une formule que j'ai choisie parce qu'il y a une dimension révélatrice dans la notion de settler colonialism qui est celle de tout ce que les écrits, les sources anglaises ont nié sur la réalité de la colonisation. Et en premier lieu, bien sûr, la gentilité autochtone, dont vous avez dû bien sûr parler avec M. Abran la dernière fois. D'accord ? Donc, c'était un peu pour provoquer aussi, pour que vous veniez un peu nombreux, parce qu'en ce moment, les États-Unis, on aime bien critiquer, parce qu'on ne peut pas s'empêcher. Donc, voilà. Alors, la genèse du concept de settler colonialism. C'est une notion qui est née en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les années 90, quand les anthropologues et les ethnologues de la région ont interrogé en profondeur leur objet d'étude. Comme toutes les sciences sociales du monde anglo-saxon, ils ont d'abord subi un linguistic turn qui les a obligés à regarder le langage qu'ils employaient dans leur méthode. Qu'est-ce que ça veut dire civilisation ? Qu'est-ce que ça veut dire modernité ? De quoi parle-t-on quand on parle d'autochtones ? Est-ce que aborigène ça marche ? Dans quel cas ? Et les Maoris, c'est pas tout à fait pareil. Quelles associations, quand on pense aborigène, qu'est-ce que ça nous soulève ? Donc, quels préjugés doit-on déconstruire, etc. Donc, le linguistic turn est arrivé. Et ensuite, le linguistic turn, c'est très important parce que la colonisation, c'est un processus aussi de nomination, un naming. C'est-à-dire que quand un colon ou un colonisateur, je n'ai pas encore décidé du terme que je voulais emprunter à chaque fois, arrive dans un endroit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait une carte. Et dans cette carte, il nomme des endroits dans sa langue propre. Parfois, il tolère Massachusetts, ce n'est pas de l'anglais. Mais il y a quand même une dimension d'appropriation d'abord par la carte. Et d'abord par le fait de nommer des endroits ou des peuples, donc les faire rentrer dans l'imaginaire européen par un biais déjà inscrit dans la langue elle-même. Ensuite, le historic turn des années 90 les a encouragés, aux 80, les a encouragés à contextualiser un petit peu mieux les sources qu'ils utilisaient. Par exemple, étudier le récit d'un voyage d'exploration de Cook, par exemple, On va pouvoir peut-être avoir quelque chose de sa main, peut-être un capitaine, peut-être il y a un scribe qui a été engagé par l'association commerciale. L'écriture fait partie de la promotion coloniale. D'accord ? Donc il y a énormément de sources qui sont produites. Mais ces sources-là répondent à un impératif promotionnel. Donc elles sont construites d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun sens. Il faut, parce qu'elles contiennent des savoirs. Au fil des explorations dans une région, les savoirs s'accumulent. Les savoirs topographiques, climatiques, économiques et puis ethnographiques. On apprend sur une région, elle fait sens petit à petit, dans des écrits et dans des cartes. Et ces sources-là, ces anthropologues australiens, ont commencé à remarquer ou à s'interroger sur justement la manière dont elles avaient construit les savoirs préliminaires que eux, en tant qu'Australiens et Néo-Zélandais, ils apportaient dans leurs recherches. D'accord ? Donc il y a eu ce désir critique d'interroger la méthode et de dire « Moi, je suis Australien, blanc, homme, j'ai 60 ans, je vais passer 15 jours dans un village aborigène, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que j'essaye d'apprendre ? Pourquoi je porte mes savoirs sur tel aspect de leur pratique plutôt que tel autre ?» La question environnementale a aussi beaucoup changé de choses. Parce que, on peut en parler dans les questions si vous voulez, je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Donc ils ont commencé à contextualiser leur objet un petit peu plus et à recentrer leur réflexion sur une rencontre. Au lieu d'avoir une perspective scientifique, l'européen et le scientifique et l'autochtone et l'objet, pensez la rencontre entre européens et autochtones. Pensez la manière dont les deux réceptions se font écho, dialoguent, se construisent l'une par rapport à l'autre. Et donc pouvoir déconstruire ceci pour échapper, se prémunir de préjugés civilisationnistes. La science, c'est nous. L'écrit, et donc l'histoire, c'est nous. Donc vous voyez, c'était une réflexion qui était quand même aussi éminemment politique et assez intense, et qui s'est passée aux antipodes dans les années 90. Je vous mets une petite référence sur une petite vidéo YouTube, c'est Patrick Wolfe, qui est donc le fondateur des études de settler colonialism, qui est décédé, mais qui c'est une vidéo très bien faite de 10 minutes avec des extraits où il définit settler and settler colonialism en plusieurs étapes. C'est très très clair. En plus, c'est agréable d'écouter un accent un peu différent de temps en temps, donc je vous le recommande. Vous verrez très clairement, il explique très bien comment ils sont arrivés à ce concept. Depuis, on voit settler colonialism un petit peu partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, bien évidemment, mais dans une moindre mesure en Afrique du Sud, au Canada très très fortement, aux États-Unis également, et ce n'est pas surprenant, pas du tout en Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, on s'intéresse finalement assez peu en histoire de l'Empire, on s'intéresse assez peu encore à cette notion. Bon, il y a d'autres raisons qui expliquent ces limites. Alors, comment définir settler colonialism en assez peu de mots ? D'abord, c'est une forme parmi d'autres de l'impérialisme européen moderne. Donc il faut toujours penser settler colonialism comme un événement parmi d'autres sur un spectre d'actions et d'activités, principalement économiques et commerçantes, mais pas seulement, qui fait l'histoire des empires européens. Donc c'est un contexte très vaste, et vous avez vu, on a parlé quand même d'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Afrique du Sud. Donc ça fait quand même des continents différents, etc. La spécificité, et c'est d'une simplicité, c'est désarmant. Comment personne n'y a pensé avant. La définition, c'est que les settlers, par opposition à tous les autres acteurs de la colonisation, les facteurs et les armateurs, qui représentent les compagnies et les marchands métropolitaines, les soldats et les capitaines et les commerçants qui s'installent dans les comptoirs ou qui circulent sur les océans de l'Empire britannique. Contrairement à tout cela, les settlers, quand ils partent, ils ne reviennent pas. comme disait Woolf, ils obéissent à un projet de remplacement des populations autochtones. Les autres agents coloniaux veulent des ressources. Accès à des ressources. Le settler, il veut la terre. Et il veut la terre pour lui-même. D'accord ? Donc une différence, c'est la différence fondamentale. Donc un projet, une société settler, ou un settlement, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de households, donc de structures familiales dominées par une figure patriarcale qui a l'autorité, contiguë ou proche, d'accord, dans un espace, des fermes individuelles qui sont gérées localement par un gouvernement. Alors un gouvernement, ça fait un bien grand mot, on a envie de dire un management à ce niveau-là, parce que c'est vraiment de la gestion de la terre. Distribution équitable, accès à l'eau, accès au bois, construction d'un ponton, connexion avec le commerce régional, etc. Il faut penser vraiment à très petite échelle. D'accord ? Donc un settlement, c'est d'abord l'appropriation territoriale, l'autogestion, parce que même s'ils ont des liens familiaux, commerciaux avec la métropole, ce sont des liens ténus. Il faut être vraiment très riche settler pour faire un grand tour en Europe à l'époque. La plupart des settlers dans l'Empire anglais ne reviennent pas en métropole. D'accord ? Donc, les historiens parlent de settler locales. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ancrer ces existences politiques, ces proto-États, dans un espace défini. OK ? C'est la terre qui compte. Évidemment, la violence est partout. Et ça, c'est un des gros silences. Enfin, ça, c'est si on ne lit pas bien les textes. Parce que quand on lit les textes, la violence, elle est partout. Mais vos pères pèlerins, ils ont fait une expédition militaire pour asseoir leur souveraineté dans la région. Le Massachusetts va faire pareil avec le Connecticut, etc. Même dans ces colonies très religieuses où on les imagine grattant la terre et priant toute la journée, en fait, ils font énormément la guerre. Il y a vraiment beaucoup de violence. Et cette violence s'institutionnalise peu à peu dans des milices, donc des fonctions, encore une fois, locales. Le settler, il va par exemple être en charge d'accueillir les criminels. Il n'y a pas de prison, ça coûte trop cher. Donc quand quelqu'un est condamné à une amende ou à un travail forcé pendant un certain temps, il faut l'accueillir. Alors ça peut être une fonction locale. Inspecteur de loups, c'est une autre fonction. Prendre son arme et puis circuler autour de l'habitation et vérifier que le nombre de loups n'augmente pas trop. D'accord ? Pour savoir si au printemps, on va pouvoir faire sortir le bétail. Des fonctions comme ça, très locales, qui sont partagées. Qui veulent dire que les chefs de famille s'impliquent très tôt dans leur gouvernance. Alors ça, c'est plutôt au 18e qu'au 19e. On pourra en reparler tout à l'heure, mais au départ, ça fonctionne comme ça. Et puis partout, ces ordres sociaux qui se construisent parce que la population augmente et les habitations s'agrandissent, d'accord ? Et donc le settlement s'accroît. Ce sont des ordres très stricts, hein, des ordres sociaux très, très stricts et qui sont racialisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'être amérindien ou être africain implique une condition de servitude. Même dans la Nouvelle-Angleterre, dès le début, il y a de l'esclavage amérindien, peu à peu aussi l'esclavage africain, ça reste minoritaire, mais bon, l'esclavage existe jusqu'à la Révolution dans le Massachusetts, et il se retrouve dans les sources, et comme dirait notre collègue Anne-Claire Fauquez dans son livre merveilleux sur New York, c'est, même s'il y a 10% d'esclaves, c'est quand même 10%. C'est quand même une société qui se construit sur cette violence et sur cette propriété du corps de l'autre. Et que ça fait quelque chose, en réalité, dans la manière dont ces sociétés s'organisent. Alors évidemment, dans le Sud, où l'esclavage est beaucoup plus prégnant et augmente en proportion, ça va faire un ordre racialisé très différent de la Nouvelle-Angleterre. Mais le principe est toujours le même, avoir une société hiérarchique avec, au sommet de cette hiérarchie, des propriétaires terriens actifs dans la gestion de leur gouvernement. Alors évidemment, comme l'a dit James Bellich, c'est son ouvrage magistral hein, sur la révolution settler de 2009, qui est vraiment sur le 19e, mais qui montre quand même que dès le 18e, les structures sont en place, économiques et sociales, pour une explosion démographique des régions peuplées par les Anglais. Aux États-Unis surtout, mais après en Grande-Bretagne, il parle de Anglos that bred like rabbits and peopled the world. Donc c'est une texto, hein, c'est la formule qu'il emploie. Bon, il est aussi antipodéen, donc peut-être ça joue, je ne sais pas. Mais le projet d'implantation réussit. Alors dans les années, soit à la période élisabéthaine, début des Stuarts, il y a beaucoup d'échecs. Vous connaissez la colonie de Roanoke. On ne peut pas dire que la Virginie était un succès non plus dans ses 20 premières années. Il y a des échecs, des colonies qui disparaissent, des tentatives qui sont et qui... Mais au final, quand on arrive vraiment même à la période révolutionnaire, on a un projet de settlement qui a abouti, puisque ces implantations, du moins dans les régions côtières, sont stabilisées et l'ordre social est installé et ne va pas changer, même pendant le moment révolutionnaire. Alors évidemment, quand vous retournez la médaille, eh bien, on doit constater aussi que ce projet d'implantation, c'est une catastrophe humaine, principalement pour les Amérindiens, mais pas seulement, les engagés, beaucoup, et puis ben, les esclaves aussi, qui sont intégrés à ce processus. Et puis une catastrophe environnementale également, parce qu'il y a, comme dans toute l'histoire de la colonisation américaine, l'expansionnisme américain, énormément de gâchis, énormément de destruction, énormément de violences comme ça, de rapines aussi, de vols. Bon, bref, il y a des destructions très, très, très marquées. Alors ça, c'est un domaine qui est en train d'émerger, l'histoire environnementale de cette période. Hein. Et il y a plein de choses encore à faire, ça peut être très intéressant. Ce que settler colonialism, ce que les sociétés settler ont en commun aussi, c'est d'adhérer à une idéologie exceptionnaliste. C'est-à-dire de dire, nous, c'est pas pareil. Nous, notre histoire à nous, elle est différente. D'accord ? Ça peut être un exceptionnalisme culturel. Par exemple, le protestantisme, c'est mieux que le catholicisme dans les colonies espagnoles. Ou être anglais, c'est mieux qu'être français, parce que les Français, ils ne savent pas faire des colonies, parce qu'ils ne peuplent pas, et puis en plus, ils se tapent dessus, texto. Enfin, je le vois régulièrement hein, dans les sources du 17e. Ah, c'est français, ils ne savent pas s'entendre, ils sont toujours en train de s'engueuler, on ne peut rien faire avec eux, c'est terrible. Et ça peut être aussi identitaire, et là, c'est évidemment cette question très importante de race, c'est-à-dire de hiérarchie des familles humaines suivant le phénotype qui structure beaucoup le discours. Alors j'ai envie de dire immédiatement parce que même dans les récits élisabétains, ce qui définit vraiment le rapport entre l'anglais et l'autochtone, que ce soit Francis Drake ou Gilbert, c'est la supériorité économique de l'anglais. Parce que dans l'échange, l'anglais arrive avec des babioles, hein, trifles. Le terme consacré, c'est trifles. Donc des billes de verre, de la ferronnerie, beaucoup de chaudrons, de choses comme ça, dont ils pensent qu'ils n'ont aucune valeur. Et en échange, ils reçoivent des peaux, des fourrures, des pelleteries, dont ils pensent qu'elles ont une très très grande valeur. Donc dans les écrits, et c'est mes quartiers, c'est pareil, enfin c'est pas vraiment le domaine de l'anglais, hein, les Français, les Espagnols, tous les conquérants de la période élisabéthaine, du début du XVIIe, parlent de cette supériorité économique de l'anglais qui connaît la valeur de l'échange. Alors que l'Amérindien, non, il n'y connaît rien, et il se fait avoir. Quand on fait l'histoire ethno-histoire après, on s'aperçoit que c'est pas vrai, mais c'est la perception. Mais il y a cette idée que, bon... Nous, on leur donne des trifles et eux, ils se déshabillent pour tout nous donner. Ils n'ont aucune connaissance de la valeur de ce qu'ils produisent. Donc, ce n'est pas encore racialisé de la manière dont ça va l'être au 19e, avec la science, etc. Mais il y a cette différence hiérarchique déjà dans l'échange de base. Donc, l'exceptionnalisme identitaire. Alors, l'exceptionnalisme religieux, bien sûr. Hein, le colonialisme anglais au XVIIe s'est construit sur la légende noire espagnole. On connaissait en Angleterre les écrits de Las Casas qui avaient été traduits et circulés, et tous les colonisateurs connaissaient la légende noire espagnole. C'est-à-dire le fait que les Espagnols réduisaient en esclavage les Amérindiens, les massacraient et utilisaient les chiens. Hein, sur les éditions de Las Casas en Angleterre, il y a une gravure hein, où on voit des chiens qui sont des chiens irlandais, des Irish, j'oublie les termes, mais bref, qui déchirent les corps amérindiens et que c'était une pratique punitive espagnole. Donc les Anglais vont dire « Ah ben nous, on ne fera pas ça. Nous, parce qu'on est protestants, déjà, on va leur amener la vraie religion. Donc quand ils vont nous voir, ils vont tomber à genoux devant la vérité religieuse qu'on leur amène. Et on ne leur fera pas ce genre de torture, on ne tombera pas dans ce genre de travers. » Alors j'ai un collègue sud-américain qui s'appelle Canizares Esguerra, qui a fait un article remarquable où il montre que l'exceptionnalisme religieux, les Espagnols avaient exactement le même contre les puritains anglais, et que c'était les mêmes termes, et que donc on est vraiment dans un phénomène européen. Hein, l'expansionnisme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser en termes extrêmement global. Dernier élément, c'est le masculinisme, et ça c'est vraiment super parce qu'encore une fois il y a plein de chantiers, et puis c'est dans l'air du temps, et puis on est plus mieux formé aujourd'hui à penser ces questions-là, mais il y a dans l'idéal settler quelque chose de l'ordre d'une affirmation virile. De toute façon, le stéréotype raciste contre le noir ou l'amérindien a une dimension particulièrement sexualisé, donc ça fait partie des choses qu'on retrouve beaucoup dans les textes, mais qui n'a pas encore été suffisamment étudié. Le rôle des femmes aussi, qui sont souvent très absentes de ces discours, qui sont des discours et des récits souvent héroïques. Hein, où on a vraiment de la bravoure, du courage dans l'adversité, enfin des valeurs comme ça qui sont très 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 masculines. Donc il y a des pistes qui se développent autour de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Moi, j'enseigne settler colonialism en M, c'est la troisième année, là, et ça se passe super bien. C'est pas du tout difficile, en fait. Moi, j'ai l'impression, le retour des étudiants est que ça fait du bien, finalement, de penser l'histoire du monde anglophone et pas l'histoire de l'Angleterre, l'histoire des États-Unis, comme si ça n'avait rien à voir, alors qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on peut traiter conjointement. On peut changer la chronologie, donc je crois qu'ils apprécient beaucoup. Ils apprécient aussi beaucoup d'être encouragés à aller lire de l'ethno-histoire, à aller lire des choses sur les Amérindiens en général, et il y a tellement de choses qui sortent en ce moment, c'est extraordinaire, et y compris sur Internet, les musées par exemple, et même des nations amérindiennes, on pense aux Wampanoags de Plymouth par exemple, qui sont vraiment intégrés au musée d'histoire vivante of Plymouth Plantation, et si vous voulez aller voir des vidéos, vous allez avoir des Wampanoags aujourd'hui qui vous expliquent comment leurs ancêtres arrivaient à fabriquer des canots qui pouvaient transporter 40 hommes. Hein, parce que les Wampanoags étaient vraiment un peuple de la mer. On pense les Amérindiens de Nouvelle-Angleterre dans la terre, et en fait, ce sont des peuples qui naviguent et qui pêchent énormément. Et évidemment, les canots de 40 hommes, on ne les voit pas. Mais parfois, il faut vraiment lire extrêmement attentivement les récits des soldats, des commerçants ou des settlers eux-mêmes pour entrevoir cette histoire. L'Empire, moi je suis 17e-iste, donc évidemment ça me soucie particulièrement, mais moi j'ai l'impression que l'Empire est partout. Il y a eu ces dernières années des champs extrêmement riches qui se sont développés. D'abord l'histoire atlantique, l'article de Gaines là résume très très bien hein, les enjeux, les démarches, la méthodologie de l'histoire atlantique, qui est de connecter l'Europe, l'Afrique et les Amériques dans une dimension circulaire, hein, de circulation pardon, des personnes, des idées et des biens. Donc essayer de rompre le récit, narrative, le récit national, centré sur l'état-nation de l'expansion impériale et de montrer au contraire la fluidité des allégeances de ces acteurs, les commerçants, mais pas que, même les soldats qui peuvent changer leur fusil d'épaule au fil de leur propre intérêt. Il y a aussi le développement de ce qu'on appelle New Imperial History. Donc, vous irez voir l'ouvrage de Kathleen Wilson qui est aussi très, enfin, c'est très didactique, hein. C'est pour vous expliquer comment en quoi cette histoire des empires est nouvelle. C'est très intéressant. Il y a un accent qui est mis sur la culture et un accent aussi qui est mis sur la, comment, la multidirectionnalité, en fait, de la problématique de l'Empire. On pensait toujours depuis la métropole vers les colonies, et puis, en fait, il faut penser aussi des colonies vers la métropole. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Catherine Hall, mais dès la période élisabéthaine, dès l'histoire, l'Empire est partout, en fait, dans les images, dans les tableaux, dans les textes. Et donc, l'Empire, ce n'est pas seulement quelque chose qui est loin, ce n'est pas seulement outre-mer, il y a aussi l'Empire en Grande-Bretagne, en Angleterre, en Grande-Bretagne, et c'est présent, il faut l'explorer. Alors ça, c'est aussi un silence. Petite anecdote, un excellent musée de la colonisation française est à La Rochelle, le musée du Nouveau Monde, et dans leur collection, au musée du Nouveau Monde, ils ont des horloges noires. Alors, parce que le musée est en fait dans un hôtel particulier d'un planteur de Saint-Domingue, donc qui avait une plantation de sucre, et ils ont recréé son intérieur pour montrer justement comment l'Empire était partout. Donc, ils ont toute une collection, en fait, d'objets, en particulier des pendules, qui représentent les esclaves. Ce que nous, on ne voit plus. Mais qui était dans l'intérieur, alors même les papiers peints, ils ont même des papiers peints, où on reproduit des visions évidemment complètement idéalisées de ce que c'est qu'une plantation de sucre. Mais néanmoins, cet imaginaire est présent dans les villes européennes. Donc la New Imperial History essaye de réfléchir aux enjeux culturels en plus des enjeux politiques. Et puis bien sûr, le plus grand changement, je dirais, dans l'histoire du 18e, et du 19e récemment, c'est bien sûr la centralité de l'esclavage. Vous connaissez peut-être slavevoyages.org, la base de données sur l'esclavage atlantique qui a été initiée par Catherine Hall, justement, à UCL, qui est un outil absolument remarquable, avec beaucoup d'animation, etc., sur justement la traite dans les Amériques, l'Europe et l'Afrique. C'est une ressource formidable. Vous pouvez rentrer par nom de bateau, par capitaine, par lieu. Et puis, il commence à développer beaucoup d'autres types pédagogiques. Moi, je montre, je fais aussi Critical Race Theory, parce que voilà. Et je montre à mes étudiants une vidéo d'un navire esclavagiste qui a été reconstitué à partir d'une peinture et qui explique très bien la hiérarchie de genre à l'intérieur du contingent. Parce que les esclavagistes minimisaient le nombre de femmes esclaves, parce que « femme » voulait dire souvent « enfant », et donc c'était pas bon ton, hein, personne n'a jamais dit... Enfin si, il y a des gens qui ont dit que l'esclavage était un bienfait pour l'humanité, mais en règle générale, la promotion était plutôt ténue. Mais vous lirez l'ouvrage de Jennifer Morgan qui s'appelle « Reckoning with Slavery », où elle explique très très bien au début cette idée qu'on a... Il y avait autant d'hommes africains que de femmes africaines sur les bateaux qui les transportaient. Seulement dans l'histoire, on a l'impression que les femmes étaient minoritaires. Et en fait, quand on regarde l'architecture des bateaux, on s'aperçoit que pas du tout, que l'équilibre était vraiment respecté. Donc c'est vraiment toutes ces démarches, que ce soit l'histoire atlantique, l'histoire impériale ou l'histoire de l'esclavage, qui essaient de revenir sur des sources qu'on avait cru exploiter ou en découvrir de nouvelles pour essayer de repenser en fait ce grand mouvement, ce grand changement qui a été l'Empire au 18e. Mais bon, ça commence au 16e et puis est-ce que c'est fini? C'est tout l'enjeu du débat, on conclura là-dessus je pense. Donc tous ces domaines qui, par endroits, mobilisent l'enjeu de settlement dans sa spécificité, nous permettent à nous, anglicistes, de commencer à réfléchir à un en commun des social, idéologique, de pratique, de culture, de langage, entre tous les espaces anglophones, tous les espaces de l'Empire. Donc l'Australie, les États-Unis, le Canada, donc faire des ponts, faire des connexions, essayer de voir ce qu'il y a en commun et quelle est la différence justement entre ces espaces-là et les espaces francophones, ou hispanophone ou lusophone. Ou l'implantation, le nombre de blancs par rapport au nombre de non-blancs changeait, les structures politiques de gouvernance, etc. Tout ça, c'était différent. Donc, ça permet des comparaisons. Moi, ce que j'apprécie, moi, personnellement, en particulier, c'est le fait de pouvoir décloisonner des disciplines et décloisonner des périodes, pouvoir aller utiliser une source qu'on dirait littéraire alors que je fais plutôt de l'histoire. Ou bien aller chercher de l'histoire quantitative parce que j'ai besoin de comparer la société que je décris avec un équivalent. Et vous voyez, c'est cette créativité, en fait, que moi, j'apprécie particulièrement. J'apprécie qu'on puisse faire des colloques et des rencontres avec des collègues hollandais, des collègues français, des collègues espagnols, et on parle de cette histoire impériale qu'on a en commun, et pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas plus ? C'est souvent la conclusion qu'on fait, c'est « Oh, mais pourquoi on ne se parle pas plus ?» Mais tout le monde n'a pas la capacité de Eliot, c'est de faire des histoires de l'Empire magistrales et énormes, mais bon, le travail collaboratif existe. Moi, j'aime beaucoup aussi parce que c'est une histoire par le bas, c'est-à-dire qu'on parle vraiment des agents, des gens qui montent sur les bateaux. Mais pourquoi on traverse l'océan à cette époque ? Bon, l'argument économique de « il faut survivre », c'est évident, c'est la première raison, mais il n'y a pas que celle-là. Par exemple, mon gars John Winthrop, il avait 41 ans quand il a pris le bateau, c'est quand même âgé. Il était propriétaire en Angleterre, il était même « lord of the manor », donc c'était un bourgeois. Donc pourquoi est-ce qu'il a voulu partir ? Pourquoi est-ce que tant de membres de sa famille, qui étaient tous commerçants, londoniens, sont partis en Irlande ? Donc ces questions-là sont aller au plus près en fait de l'expérience des gens qui sont partis et essayer de recouvrir les expériences qui ont disparu, en particulier celles des femmes qui sont en sous-texte partout, mais qui ne sont pas assez présentes à mon sens. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est de l'histoire sociale, mais c'est aussi de l'histoire culturelle, et puis surtout, c'est éminemment critique. Moi, personnellement, j'adore cette démarche qui consiste à considérer que les sources que j'utilise ont produit la connaissance de l'historiographie qui a suivi, et que je revisite, en fait, des sources, que je les relis, et donc je les lis d'une autre manière, mais j'ai des a priori. C'est comme quand vous faites un commentaire de texte et qu'on vous dit « pensez à l'horizon d'attente », c'est un peu pareil. Je pense à l'horizon d'attente. Alors, je connais cet individu, Francis Drake. Bon, il n'a rien écrit, lui, parce que bon, je pense qu'il écrivait peut-être pas très bien. Mais si je vais rechercher dans la collection de Quinn, je m'intéresse à un projet particulier et je vais lire tout ce qui est publié, ce que je vais réfléchir, c'est à quoi ça sert, ce texte ? À qui il s'adresse ? Est-ce que c'est une justification ? Est-ce que c'est une promotion ? Qu'est-ce qui est caché ? Ah là, il y a un problème, là, c'est bizarre, il n'y a pas de sens. Et puis alors, je vais aller voir l'événement, et puis je vais essayer de comprendre, en fait, quel est l'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette créativité-là, et c'est extraordinaire, je ne m'en lasse pas. Ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est de ne plus avoir à penser uniquement l'État-nation, à penser la métropole, à penser les intérêts métropolitains, même s'il faut toujours les garder en tête. Par exemple, on apprend le mercantilisme sur le 18e anglais. Les théories, les savoirs évoluent sur la politique impériale britannique et à partir de quel moment elle s'est affirmée, et la révolution américaine, etc. Bon, donc c'est vraiment tout ça qui rend, je trouve, la notion parfaitement intéressante. Alors, rapidement, pour illustrer, qu'est-ce que ça veut dire une perspective settler colonial sur la révolution américaine ? Et là, je vous renvoie, j'emprunte à mon collègue Trevor Bernard le dernier chapitre du livre qui vient de sortir, qui s'appelle Writing Early America, qui est un livre historiographique. Moi, l'historiographie, c'est mon dada, donc j'ai fait une recension pour 17-18, donc elle sortira, je pense, bientôt, mais quand même. Qu'est-ce qu'il dit dans ce chapitre sur l'historiographie des 10 dernières années de la Révolution américaine ? Il dit d'abord, l'exceptionnalisme avec lequel ma génération a été formée n'a plus lieu. On n'enseigne plus la Révolution américaine comme la naissance des libertés. Le radicalisme de Gordon Wood, cette nation républicaine à l'idéal de liberté qui se serait soulevée en 20 ans et qui aurait fait naître cette République perfectible, ça n'intéresse plus trop les historiens. Quand on parle plus de révolution d'ailleurs, parce que les structures de gouvernance n'ont pas changé, ce ont été les mêmes hommes blancs qui ont dominé la hiérarchie sociale, économique et politique de toutes les colonies britanniques en Amérique. Vous irez lire l'article de Serena Zabin en conclusion du numéro spécial de Early American Studies sur la révolution américaine en 2017. On a envie de se jeter dans l'orne. C'est terrible. Donc, on est passé d'un espèce d'idéal révolutionnaire, d'espérance, de modèle du monde, pour revenir à Winthrop, et à quelque chose qui est waouh, l'Amérique, à moins d'être bourgeois, homme blanc et de 50 ans, il n'y faisait pas bon vivre. C'est un petit peu la leçon de l'histoire sociale depuis 10 ans. Autre leçon, la révolution américaine ne s'étudie pas dans ses propres termes. C'est un événement parmi d'autres de l'âge des révolutions. Donc il faut la comparer à la révolution française, la révolution haïtienne, la révolution mexicaine. Il faut penser sur le long terme une modernité en crise, mais à l'échelle de l'Atlantique et pas seulement à l'échelle des États-Unis. On dit aussi que le changement, il n'y a pas eu de changement dans l'événement révolutionnaire lui-même. Par contre, la guerre d'indépendance a été une catastrophe. Donc, quand il y a changement social ou politique, ce n'est pas par l'acte de prise d'indépendance qu'il est venu, mais par la guerre. Et la guerre est en particulier une catastrophe, en particulier dans l'Ouest, pour les populations amérindiennes, mais pas seulement. Donc, la violence, la catastrophe, la crise économique, tout ça, c'est très en avant. Dernière perspective, et c'est là que settler colonialism arrive à plein, c'est celle de la perspective hémisphérique, qui consiste à dire, bon d'accord, il y a les colonies sont là, donc il y a l'Europe qui est là, certes, la Caraïbe ici, mais il y a l'Ouest. Et d'intégrer l'Ouest dans les problématiques géostratégiques de la Révolution américaine qui vient à la fin d'un siècle où il y a eu 4 guerres entre l'Angleterre et la France, qui se sont combattues aussi sur le continent américain. Donc en réalité, vous voyez, cette dimension géopolitique décentre vraiment l'exceptionnalisme historique et permet d'arriver dans l'Ouest où on se rend compte que les settlers n'étaient absolument pas vainqueurs absolus, mais que la souveraineté sur les territoires était encore fragile, comme elle l'a été à toutes les étapes. Si on regarde la résistance amérindienne, le pouvoir militaire amérindien qui restait même dans le Nord-Ouest, c'est-à-dire Ohio Country, etc., chez les Haudenosaunee, hein, enfin chez les Iroquois, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de victoire de la République américaine et d'appropriation du territoire qu'il a fallu. Il y aura d'autres guerres et il y aura d'autres conflits pour que ça s'effectue. Vous voyez, une vision quand même assez opposé, alors qu'on arrive à l'anniversaire, hein, les 250 ans dans 2 ans, bon, ça va être un moment où il y aura beaucoup de disputes, ici, parce qu'ils ne peuvent pas s'engueuler là-bas, mais ils viendront chez nous, c'est pour ça qu'on a, hein, c'est pour ça qu'on a notre ANR, hein, c'est pour qu'ils viennent tous discuter chez nous, parce que chez les gens, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas parler, donc voilà. Alors maintenant, les enjeux méthodologiques, parce que je m'aperçois que je suis allée plus longtemps que ce que je pensais. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on peut, pour vous qui êtes en master, qui jeune chercheur peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette notion? Alors, on a une chronologie très vaste et un espace aussi très vaste. Donc, on a le choix, ça c'est chouette, hein, ça dépend. Si on a une affinité particulière pour une région du monde anglophone, alors je ne dis pas le Commonwealth, hein, parce que c'est le monde anglophone, je ne vais pas mettre le Commonwealth par-dessus. Mais c'est quand même un ensemble d'espaces très diversifiés. Donc, il y a du choix. En revanche, pour faire cette étude bien, il faut qu'elle soit localisée. Hein, Elizabeth Mankey, en 2005, qui est canadienne, disait qu'il ne fallait pas parler de colonies, il fallait parler de « spaces of power ». Donc, l'enjeu, c'est l'espace, et c'est un espace contesté. Et qu'il faut faire apparaître toutes les parties prenantes de cette implantation. Les commanditaires en métropole, les acteurs européens, les autres Européens, et puis bien sûr les Amérindiens, les Autochtones, dans toute leur complexité. C'est difficile parce que les sources sont souvent multiples, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent promotionnelles, donc elles doivent être déconstruites, elles doivent être critiquées. Pour ça, il faut quand même des savoirs. Fréquenter, quand on fréquente beaucoup, comme je le fais, de la littérature promotionnelle, je reconnais, je peux définir, mais c'est un apprentissage, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Elles sont souvent partielles. Il manque des choses. Par exemple, l'éditeur de John Winthrop, qui était son arrière-arrière-petit-fils, qui était sénateur du Massachusetts, eh ben, il a dit dans ses lettres qu'il avait supprimé les courriers les plus compromettants. Et c'était... Bon, moi, je pense que c'était des trucs sexuels, hein, parce que John Winthrop aimait beaucoup ses femmes, et, parce qu'il en a eu plusieurs. Hein, et, enfin, pas en même temps, hein, à la suite, bien sûr. La mortalité en couche était terrible, mais... Et il aimait beaucoup l'amour charnel, l'amour physique, etc. Donc c'est peut-être ça que Robert C. Winthrop a supprimé, hein, au 19e siècle. Mais bon, on ne saura jamais, parce qu'il ne dit pas dans ses lettres ce qu'il a supprimé. Donc, la difficulté, c'est bien sûr l'histoire, l'ethno-histoire et l'histoire amérindienne. Alors, aux États-Unis, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits pour diffuser ce qu'on appelle « indigenous ways of knowing ». Par exemple, quand on a un compte-rendu d'un récit fait, soi-disant, par un amérindien, une transcription, il faut pouvoir comprendre comment parle, comment fonctionne le langage, qui est une façon de circuler autour du réel plutôt que de le nommer ou de le traverser. Donc, par exemple, le Homo Hunter Institute, qui est l'institution dominante, on va dire, hein, de mon champ à moi, qui est le 18e américain, qui publie le William and Mary Quarterly, qui est la revue numéro 1 sur 17-18 américains. Ils ont des ateliers, ils ont des formations en ligne pour aider les étudiants justement à comprendre le langage, parce qu'il faut apprendre une langue. Si vous voulez étudier une communauté amérindienne, il faut pouvoir, si elle a des descendants, si elle est reconnue, si elle existe, apprendre la langue. Il faut pouvoir aussi connaître suffisamment les façons de parler et de s'exprimer et les rituels pour se faire intégrer, pour qu'ensuite on vous parle. Parce que c'est une histoire aussi qui est de toute façon de manière tout à fait logique gardée secrète, d'accord? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'en empare. Donc il y a énormément d'enjeux méthodologiques en fait. Si vous voulez faire une recherche en ethno-histoire, ça peut être extrêmement compliqué. Il faut se faire financer parce qu'il faut aller là-bas, etc. Mais en même temps, the rewards are really worth it. Parce que les étudiants que moi je connais qui font des thèses, il n'y en a pas beaucoup, mais je connais surtout une étudiante qui fait une thèse actuellement, elle s'éclate. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile. Et ça, nous, on n'est absolument pas formés. Et on est très éloignés de toutes ces questions. Il faut faire un travail de déconstruction du langage et de la symbolique, on en a parlé, donc ça on sait faire en tant qu'angliciste, quand on a fait de la civilisation et qu'on a fait du commentaire de texte, et ben, on peut quand même, on sait déconstruire, on sait repérer des tournures, des formules, des idées. Mais l'enjeu surtout, à mon sens, hein, c'est d'essayer de travailler la loi, c'est-à-dire comprendre l'imbrication entre constitutionnalisme, comment se forment ces proto-États, quels sont les textes fondateurs, quels sont les textes de loi qu'ils mettent en place, et comment ça s'articule avec le droit foncier. Parce que la propriété territoriale, la propriété est tellement au centre de l'implantation qu'il faut absolument se pencher là-dessus. Autre obligation, le facteur économique. Parce que « settler », »,« to settle », c'est un verbe, c'est une action. Et derrière une entreprise d'implantation, il y a la quête d'une ressource, d'un enrichissement. Au XVIIe, il parlait de « competence », hein, l'idée de pouvoir atteindre un statut en tant qu'homme libre qui soit un statut d'indépendance, c'est-à-dire de non-dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui, en métropole, aurait été un noble et à qui il aurait fallu payer des quitrents pour utiliser une terre. Et là, la terre vient libre de ses obligations. De plus en plus, au tout début du XVIIe, il y a des endroits où il y a des obligations à la métropole, mais dans le Massachusetts, il n'y en a pas. Et il y a un rejet total de l'aristocratie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument particulier à mon sens. Mais le facteur économique est essentiel. Ce que fait Winthrop avec ses partenaires, c'est qu'il crée des mini-corporations pour envoyer un bateau de maïs, aller le vendre en Virginie et puis remonter avec du sel ou bien envoyer, aller acheter du sucre, fabriquer du rhum, hein, parce que dès 1647, ils exportent le rhum jusqu'en Espagne, et qu'il y a un rhum qui va se retrouver ensuite en Afrique, hein, dans la traite. Donc, il y a vraiment une dimension économique d'entrepreneuriat, d'initiative, de solidarité, d'exonération fiscale. Enfin, il y a plein de mécanismes pour encourager l'entreprise et le développement économique. Il faut travailler à plusieurs, il faut rencontrer les collègues, il faut faire vraiment de la collaboration, parce qu'on ne peut étudier proprement ces espaces que de manière très précise, et donc il faut rencontrer la personne qui travaille sur celle qui est à côté ou un peu plus loin, et essayer de comparer en fait nos savoirs et ce qu'on apprend. Alors les limites du concept. Il y a une énorme limite, c'est que quand Patrick Wolf s'est emparé de l'idée de settler et du terme de settler dans les années 90, en fait, il imaginait une Australie. Il imaginait l'Australie du 19e siècle. Les conditions d'implantation anglaise en Amérique du Nord étaient complètement différentes. Et les Amérindiens n'ont jamais disparu. Donc l'idée de remplacement, c'est-à-dire la démarche génocidaire, que beaucoup de spécialistes de settler colonialism utilisent, elle ne vaut pas en Amérique. Ça ne marche pas, parce qu'il y a des intentions. Bien sûr qu'ils proclament que s'il y a des épidémies, c'est parce que Dieu les a voulu et que tant mieux que ces Indiens meurent. Mais la démarche génocidaire qui consisterait à se passer d'eux, elle n'est pas dans leur esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils dépendent absolument des Amérindiens, pour plein de choses. D'abord pour se nourrir quand ils arrivent, et puis pour commercer, et puis pour savoir, quand ils vont dans la forêt, quelles sont les plantes qui sont utiles. Il faut qu'ils remplacent tout ce qu'ils ne fournissent pas. Et tous ces savoirs-là, ce sont des savoirs amérindiens. Et donc, le settler colonialism, si vous allez voir settler colonialism, la revue, vous allez tomber sur des articles où vraiment le terme de génocide est employé. Moi, je pense que dans le contexte américain, ça ne s'emploie pas. Faut pas exagérer. C'est pas. Il y a des instances, il y a des événements, il y a des massacres, il y a des choses comme ça. Mais l'intention génocidaire que les chercheurs australiens attribuent aux colonisateurs australiens et néo-zélandais ne fonctionne pas dans le contexte de l'implantation anglaise de 100 ans plus tôt. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est une limite. L'autre limite, c'est que settler colonialism, il y a les sociologues, les anthropologues, les politistes qui s'emparent de la notion aujourd'hui, intègrent Israël, par exemple. Donc ça fait des colloques problématiques, encore plus en ce moment. Mais vous voyez ce que je veux dire, la notion de génocidaire qui est très très attractive en réalité, pour nous, anglicistes, qui pensons l'implantation en Amérique, ça ne marche pas. Donc c'est un grand pan de la théorie qu'il faut absolument mettre de côté. L'Australie du 19e, ce n'est pas l'Amérique du 17e. On ne compare pas, il faut quand même un peu de rigueur. D'accord ? La limite aussi, c'est les savoirs autochtones. Donc ça, ils sont invisibilisés dans les sources, donc il faut les reconstruire. Donc c'est les fameux silences que cette colonialisme essaye de supprimer. Le troisième problème, c'est que Wolf et Denoon, avant lui, qui était un géographe australien dont Wolf était l'élève, était obsédé par Turner. En fait, l'idée première qui leur est venue, pourquoi ils ont pensé Settler, ils ont pensé à Turner et la théorie de la frontière. Donc pour eux, c'était ce continuum-là, de logique-là, il part en fait de savoir déjà constitué à la fin du 19e. Donc ça ne colle pas tout à fait. Il faut donc essayer de penser ces choses-là autrement. Enfin, settler, settlement, je n'ai pas utilisé de mot français, il n'y a pas de mot français. Il n'y a pas non plus de mot espagnol. D'accord ? Parce que c'est une spécificité anglo-saxonne. Donc, c'est aussi un verbe, c'est difficile à traduire. Les settlers, ils sont partout. Je veux dire, on pourrait dire les cow-boys, les pionniers, les coureurs des bois, les trappeurs, Jackson, d'accord ? C'est tous des settlers, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est facile parfois, surtout quand ils vont dans leur grande rhétorique conquérante sur leur victoire inéluctable, c'est vrai que c'est tentant, en tant que civilisationniste, on a envie de juste dénoncer. Mais en réalité, en faisant ça, on n'explique pas, puisque la promotion, elle est là dès le début. Ce qu'il faut expliquer, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire ces États qui se constituent et comment ça se passe sur le terrain, politiquement, économiquement, institutionnellement, etc. Ils sont insaisissables parce que chez Turner, le settler, c'est pas un être, c'est un État. Et c'est un État transitionnel. Le settler, c'est celui qui passe de l'européanité à l'américanité en perdant son européanité, en se confrontant à la nature. Donc une fois qu'il est américain, il n'est plus settler, puisqu'il n'est plus dans l'acte de conquête. C'est pour ça que settler, c'est un terme qui se prête éminemment au mythe. Parce qu'en fait, il est insaisissable, parce que c'est un état de passage en réalité. C'est intraduisible, alors settler, c'est pas mal, settler. Mais en tant que Français, vous savez bien qu'on aime bien quand même se dire qu'on doit pouvoir penser à des équivalents. Alors si vous avez des idées, hein, je suis tout à fait preneuse. Je conclue là-dessus pour vous dire que settler colonialism, c'est là pour durer, hein, que de toute façon, ça va continuer et que j'espère vous avoir montré l'intérêt de la notion, mais en même temps, vous avoir mis en garde contre les généralisations hâtives qu'on peut faire. Ça reste quand même, il faut que ce soit un concept historique et donc beaucoup de rigueur. C'est problématique parce que c'est un enjeu des guerres culturelles en ce moment dans tout le monde anglophone, hein. Quand 1619 est sorti, bah, Trump il a fait sa commission 1776, c'était du settler colonialism through and through. Hein, c'était sur la victoire de la civilisation, la liberté de l'individu. Enfin bon, c'était bon. Donc voilà, la notion est mouvante, elle n'est pas encore complètement définie, il y a des choses à faire. Il faut être interdisciplinaire et puis surtout, il faut lire beaucoup d'études critiques parce qu'il faut être sans cesse vigilant. À l'égard des sources et aussi ben, des termes qu'on va employer, en particulier génocide, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'écueils. Mais en tout cas, moi, et j'ai eu cette espèce de moment révélateur, en fait, quand j'ai saisi la force du paradigme. Et en tout cas, j'ai envie de continuer en tant que chercheuse ici en France à faire connaître cette notion parce que je pense qu'elle est... Elle fait sens, elle permet de connecter certains aspects de l'histoire américaine, de l'histoire anglaise, britannique, qui sont pas forcément, dont la logique n'est pas toujours évidente. Et settler colonialism, ça permet ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention.